Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les Renaissances 1453-1559 » de Philippe Hamon est une synthèse d'Histoire de France publiée dans la collection Bellin Histoire de France. L'ouvrage couvre la période qui va de la fin de la guerre de Cent Ans à l'accession d'Henri II en proposant un découpage chronologique inhabituel mais réfléchi, destiné à faire apparaître un beau XVIe siècle marqué par le renouveau démographique, économique, politique, religieux et culturel. Son originalité tient à une lecture au pluriel de la Renaissance, entendue non comme une rupture brutale et unique, mais comme un ensemble de transformations inégales, continues et parfois contradictoires. Le livre privilégie une organisation thématique qui permet de relier entre eux les dynamiques sociales, les formes de pouvoir, les circulations savantes, les tensions confessionnelles et les mutations artistiques. Il s'adresse à un public qui cherche une vision structurée, critique et historiographique de la France de la première modernité, sans réduire la période à quelques figures ou à une simple célébration humaniste. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une périodisation qui remet en cause la coupure entre Moyen-Âge et époque moderne. Le premier apport du livre est son choix chronologique. En plaçant la période entre 1453 et 1559, Philippe Hamon s'éloigne des bornes plus classiques de la Renaissance pour faire apparaître un temps long de recomposition après la guerre de Cent Ans. Ce cadre permet de montrer que les transformations ne surgissent pas d'un coup, mais qu'elles s'enracinent dans des continuités médiévales, notamment dans les institutions, les pratiques religieuses et les hiérarchies sociales. L'intérêt de cette périodisation est donc analytique, autant que pédagogique. Elle oblige à penser la Renaissance comme une phase de mutation progressive, plutôt que comme une naissance soudaine de la modernité. Le livre insiste ainsi sur le fait que les changements visibles dans la culture, l'administration ou les échanges ne prennent tout leur sens que si on les replace dans une histoire de longue durée. Ce déplacement du regard constitue une des principales raisons pour lesquelles l'ouvrage se distingue dans son genre. Deuxièmement, une histoire sociale et économique du renouveau français, elle, une des grandes forces de l'ouvrage est de montrer que la Renaissance ne se limite pas aux arts et aux lettres. Philippe Hamon met au premier plan les évolutions démographiques, les circuits marchands, la circulation des richesses et la structuration d'une société d'ordre qui reste très inégalitaire. Le renouveau économique ne signifie pas une prospérité uniforme, mais l'apparition d'opportunités nouvelles pour certains groupes, en particulier en milieu urbain, dans les milieux d'officiers, de financiers et de marchands. Cette lecture évite l'image simplifiée d'un âge homogène, la croissance accompagne d'encadrements plus stricts, de tensions sociales et de formes de hiérarchisation persistantes. Le livre montre aussi que les mutations matérielles ont des effets politiques et culturels, car l'essor des échanges, de la consommation et des mobilités favorise la diffusion des modèles nouveaux. En reliant économie et société, l'auteur donne une épaisseur concrète à la période et explique pourquoi certaines transformations deviennent visibles sans pour autant bouleverser l'ensemble de la structure sociale. Troisièmement, la monarchie française entre affermissement de l'État et recherche de légitimité. Le livre accorde une place importante à la monarchie, non comme simple succession de règne, mais comme cadre structurant de la période. Philippe Hamon analyse le renforcement de l'appareil d'État, l'élargissement de la cour, les pratiques fiscales et administratives, ainsi que la capacité accrue du pouvoir royal à arbitrer entre groupes sociaux et à organiser le royaume. Cette montée en puissance ne doit cependant pas être interprétée comme une centralisation parfaitement linéaire. Le texte met en valeur le rôle des négociations, des fidélités personnelles et des équilibres de privilèges qui continuent d'encadrer l'action royale. La monarchie apparaît alors comme un lieu de transformation, mais aussi comme un espace de compromis. L'ouvrage montre également que la construction de l'autorité politique est liée à une mise en scène du pouvoir, au prestige de la cour et à la capacité du roi à attirer des talents, des officiers et des ressources. Ce traitement politique donne à la Renaissance française une profondeur institutionnelle complète qui complète utilement les approches centrées sur les grandes figures royales. Quatrièmement, humanisme, langue française et culture savante, un renouveau traversé de tensions. La partie culturelle du livre n'est pas traitée comme un bloc autonome, mais comme un domaine en interaction avec le religieux et le politique. Philippe Hamon examine le projet humaniste, le travail philologique, la diffusion des studia humanitatis, la promotion de la langue française et la place de l'imprimerie dans la standardisation des savoirs. L'intérêt de cette approche est de ne pas réduire l'humanisme à une simple redécouverte de l'Antiquité. L'auteur insiste sur ses dimensions morales, pédagogiques et sociales, ainsi que sur ses limites. La relation à l'Antiquité y apparaît complexe, car la recherche d'authenticité s'accompagne d'une conscience plus forte de la distance historique. Le livre souligne aussi la montée d'une culture de la langue, avec la Pléiade, les débats orthographiques et l'affirmation progressive de l'écrivain comme figure autonome. cette partie montre enfin que la culture renaissante reste traversée par des tensions entre idéal de réforme, besoin de prestige social et contraintes doctrinales. Le renouveau culturel devient ainsi un observatoire privilégié des contradictions de la période. En dernier lieu, réformes religieuses, conflits européens et fragilisation de l'unité du royaume, le dernier grand axe du livre porte sur la dimension religieuse et internationale, essentielle pour comprendre la fin de la période. Philippe Hamon montre que la réforme ne s'impose pas seulement comme rupture spirituelle, mais comme phénomène inscrit dans une société profondément chrétienne, où les aspirations au renouveau rencontrent des résistances fortes. L'ouvrage insiste sur la diversité des attitudes face au débat confessionnel et sur les impossibilités de réduire les comportements religieux à des appartenances sociales simples. Il relie également ces tensions internes aux transformations de la politique extérieure, notamment aux affrontements avec les Habsbourg et à la recomposition des alliances européennes. Cette articulation entre conflits intérieurs et internationaux est importante, car elle prépare la lecture de la suite de l'histoire française vers les guerres de religion. Le livre ne dramatise pas la rupture finale, il suggère qu'en 1559, une réunification reste encore concevable, ce qui donne au moment étudié une forte dimension d'incertitude historique. Cette manière de conclure met en valeur la fragilité des équilibres de la première modernité. En conclusion, les Renaissances 453-1559, elles s'adressent en priorité aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et plus largement à toute personne qui souhaite comprendre la France du XVIe siècle sans se contenter d'une vision scolaire ou purement événementielle. Le livre sera particulièrement utile à ceux qui cherchent une synthèse fiable, documentée et historiographiquement consciente, capable d'articuler démographie, économie, société, pouvoir, religion et culture. Son intérêt pratique est de fournir un cadre d'interprétation solide pour aborder une période souvent morcelée entre plusieurs manuels spécialisés. Son intérêt intellectuel tient à sa capacité à déplacer les questions au lieu de demander seulement ce que la Renaissance a inventé, il interroge ce qu'elle a transformé, conservé et reformulé. Ce qui distingue surtout cet ouvrage, c'est son refus de la vision héroïque ou linéaire de la modernité. Philippe Hamon propose une lecture nuancée, attentive aux continuités médiévales, aux tensions confessionnelles et aux usages sociaux de la culture. C'est une synthèse exigeante, utile autant pour réviser que pour réfléchir, et qui renouvelle nettement la manière d'aborder la Renaissance française. Si vous souhaitez soutenir Philippe Hamon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!